Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer demain.
Nous accueillons aujourd'hui Christophe Descohan.
Bonjour.
Bonjour Christophe. Donc, c'est le CEO de MoneyOne. Donc, pour ne pas vous spoiler, Christophe vous parlera de MoneyOne plus en détail tout à l'heure. Déjà, pour commencer, Christophe, comment est-ce que tu vas ?
Bah écoute, moi, je vais très bien. Tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Merci d'être venu sur Avenir aujourd'hui. Écoute, au travers de ce podcast, notre objectif, c'est d'en apprendre plus sur toi, ton histoire et bien sûr ta vision de l'avenir et sur MoneyOne, bien sûr. On parlera également d'immobilier, notamment des SCPI et de l'investissement. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Ben voilà, je m'appelle Christophe Descohan, je suis effectivement aujourd'hui CEO de MoneyOne et en parallèle, j'ai la direction générale d'une plateforme d'innovation au sein d'un asset manager. Donc j'y reviendrai parce que ça a une corrélation avec certains bienfaits de MoneyOne. Voilà, et puis 48 ans, ça fait 25 ans que je travaille dans l'asset management. J'ai eu différents jobs, j'ai fait du marketing, de la gestion, de la vente, du management, etc. Donc j'ai vu à peu près toutes les strates de la réalité de ce qui compose les départements d'un asset manager. Et donc voilà, et puis j'ai toujours eu envie d'avoir une logique un petit peu entrepreneuriale, et puis je l'ai jamais fait dans la réalité, et j'ai eu l'opportunité au sein du groupe La Française dans lequel je travaille de pouvoir monter une activité en intrapreneuriat justement qui s'appelle MoneyOne. Donc on est à la frontière entre l'entrepreneuriat et le salariat, et voilà, donc j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable et c'est plutôt pas mal.
Ok, alors pour faire un peu un bond dans le passé, est-ce que tu peux nous parler d'où est-ce que tu viens, ton enfance, où est-ce que tu as grandi?
Ok, donc moi je suis normand, je suis né à Caen, dans le Calvados. Et j'ai ensuite longtemps vécu dans une petite ville qui est relativement connue, puisque c'est une ville connue des catholiques qui s'appelle Lisieux, la basilique Sainte-Thérèse. J'ai grandi là-bas, j'ai passé mon bac là-bas. Ensuite, je suis allé faire mes études à Paris, comme tout. Provincial, jeune, un peu actif, qui se respecte, j'ai eu envie d'aller voir la capitale et de sortir du fin fond du Calvados, même si j'adore ce département. Donc j'ai fait une école de commerce à Paris, et puis dans laquelle j'ai fait une spécialisation en commerce international, spécialisation que je n'ai quasiment jamais utilisée dans mon encadrement, dans mon environnement professionnel, puisque à la fin de mes études, j'ai réalisé un stage chez un asset manager, en étant donc spécialiste sur le commerce international, donc strictement rien à voir. Et ce stage, voilà, j'ai eu l'opportunité de l'avoir et je l'ai fait plus spécifiquement sur des sujets. C'était la naissance d'Internet, parce qu'on est en 98. Et donc, pour un asset manager, il n'y avait pas de réalité encore de site web lié à l'asset management. Et donc, j'ai démarré ma carrière sans avoir aucune connaissance et sans l'avoir préalablement demandé dans l'absolu sur des logiques web qui en fait in fine ne m'auront jamais lâché dans la durée. Et puis même si j'avais pas du tout vocation, moi j'étais assez fan de course automobile, je rêvais de travailler pour une écurie de Formule 1 ou de rallye, donc l'asset management en est assez éloigné, et au bout du compte, à la suite de ce stage, je n'ai jamais quitté l'asset management. Et donc une dizaine d'années au sein de la Société Générale. Et puis, il a une quinzaine d'années au sein du groupe La Française.
Ok. Alors, on va un peu parler de ton arrivée dans l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer aujourd'hui ce qui t'intéresse dans l'immobilier, notamment, et pourquoi, comment est venue l'idée de MoneyOne ?
Ok. Alors, pour refaire un petit peu de rappel historique, effectivement, dans les 10 années que j'ai passé à la Société Générale, j'ai fait 5 ans en asset management, on va dire, pur et dur, donc sur du montage de sites web, la création de bases de données produits. Je suis rentré de cette manière-là dans la logique de création produit, de marketing produit, et SGAM, la chance que j'avais à l'époque, donc l'asset manager de la Société Générale, c'est qu'il traitait l'exhaustivité des classes d'actifs, les FCPE, les fonds actions obligataires, les produits structurés, la gestion alternative et la gestion immobilière et private equity. Donc j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier, à comprendre la réalité des fondamentaux de la gestion collective sur de l'immobilier à ce moment-là. Et puis des passerelles se créent au sein de la Société Générale, et ensuite j'ai basculé côté private banking, dans lequel j'ai eu pour principale mission de monter ce qu'on appelait un centre d'expertise dans lequel je devais venir sélectionner des solutions immobilières pour le compte des clients privés de la banque. Et donc, on l'a fait de mille manières différentes, les actifs en direct, via des produits collectifs, via des produits immobiliers cotés, via des produits structurés sur indices immobiliers, etc., etc. Et donc, c'est par ce biais-là que je suis vraiment rentré complètement dans l'immobilier. Et pour la petite histoire, c'est parce que j'interfaçais des fournisseurs pour venir alimenter les clients de la banque que j'ai rencontré la Française. Et la Française, en 2007, avait pour ambition de venir mettre en place des OPCI. C'était la naissance de l'OPCI, c'est un produit collectif qui mixe des valeurs mobilières et de l'immobilier. Et étant entendu que j'avais un background sur les deux classes d'actifs, et qu'on s'entendait bien avec ce fournisseur, ils m'ont fait une proposition de les rejoindre pour venir monter cette gamme au sein du groupe La Française. Voilà. Et donc là, pour le coup, je suis vraiment venu dans une logique immobilière au sein du groupe La Française. D'accord. Et c'est après que j'ai élargi le spectre sur d'autres classes d'actifs.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu as cofondé ou fondé MoneyOne ?
Oui, alors effectivement, c'était ta question d'origine à laquelle je n'ai pas répondu. J'ai eu différents postes au sein du groupe La Française. Et il y a un de ces postes qui était, on avait une activité de gestion privée. Donc on traitait des clients directs sur lesquels l'immense majorité des clients étaient issus de l'acquisition d'une société de gestion immobilière qu'on avait réalisée. Et c'était des clients directs. Et puis on a constaté qu'il y avait plusieurs anomalies autour de tout ça. La première, c'est que nos clients, qui étaient investisseurs, donc c'était des produits SCPI, avaient envie de resouscrire et trouvaient assez dommage d'avoir des process relativement lourds, c'est-à-dire l'obligation de revenir sur site, de signer X papiers, alors qu'ils connaissaient parfaitement le produit, ils étaient totalement en adéquation et ils auraient voulu un peu plus automatiser ces réalités-là. La deuxième chose, c'est qu'on a découvert que les ayants droit, quand il y avait une succession, par exemple, sur des SCPI, c'est que la plupart du temps, les ayants droit coupaient la position, la vendaient, parce qu'ils ne comprenaient pas la réalité de ce dont ils héritaient. Ils n'avaient aucune connaissance de la réalité du bien fondé du produit qu'ils recevaient. Et donc, on a commencé à mettre en place des relations avec eux pour essayer de comprendre pourquoi ils coupaient les positions, etc. Et quand on leur expliquait la réalité de ce dont ils héritaient, 90% du temps, ils gardaient la position. Donc, on a fait un constat relativement simple. Un, on a des clients qui veulent souscrire de manière plus simple ou ressouscrire de manière plus simple. Et deux, il y a un déficit de culture énorme sur ce produit, alors qu'il est adapté à la quasi-totalité des investisseurs potentiels. Et donc, on a proposé à notre board, donc à la direction générale du groupe La Française, de venir nous incuber et de nous donner des fonds pour pouvoir monter une équipe qui allait créer une plateforme digitale de distribution d'immobilier. C'est la genèse de MoneyOne.
D'accord, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous parler des différents services que propose du coup MoneyOne ?
Alors aujourd'hui, structure née en 2016, qui chaque année grandit, évolue. On a la volonté de faire une plateforme qui vient démocratiser l'épargne au sens large et on a un biais originellement immobilier. Donc la manière dont on a opéré les choses, c'est on a d'abord voulu créer de la pédagogie, de la création de culture autour de la réalité de ce qu'est un produit immobilier. Donc le faire de manière relativement simple pour venir répondre à ce que je t'évoquais tout à l'heure, à savoir un déficit de culture très fort des individus alors qu'il y a une adaptation à leur problématique financière. Et puis, donc à partir de là, on a dématérialisé totalement la souscription à la SCPI. D'accord. Ensuite, il y a différentes manières d'acheter la SCPI. Donc on peut l'acheter à crédit par exemple et faire du déficit foncier. Donc on est venu adosser une solution 100% digitale à crédit. Puis ensuite, il y a une troisième manière qui est de le faire en démembrement. Donc, on est venu amener une solution de démembrement digital. J'achète ou de la nue propriété ou de l'usufruit, selon quel type d'investisseur je suis. Ensuite, on a découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de s'exposer à cette typologie de produits, mais qui n'étaient pas spécifiquement en capacité d'avoir les montants minimums d'acquisition au démarrage, qui est souvent de 3 000, 5 000 euros, ce qu'il faut acheter un certain nombre de parts. Donc, on a décidé de décimaliser, d'autoriser le versement programmé sur SCPI. Donc, on a rendu le produit accessible à partir de 20 euros par mois. Donc on est rentré dans un modèle vraiment quasiment d'abonnement à de l'immobilier. En étant éligible donc à un produit qui est exactement le même. Donc ça, c'est pas mal. Et puis la dernière manière dont il fallait qu'on traite l'immobilier, c'était l'assurance vie, puisque c'est une enveloppe fiscale qui peut être importante pour certains partenaires. Et donc on a créé le modèle d'assurance vie et on y a adossé en digital un robot allocateur. donc en fait une sorte de robot advisor, pas une sorte, un robot advisor, qui selon la réalité de vos objectifs vient vous construire une allocation, mais qui là ne s'arrête pas à l'immobilier. Il y a de l'immobilier, mais il y a aussi des fonds actions obligataires, etc., selon la réalité de votre profil de risque. Donc aujourd'hui, on est une plateforme qui est 100% digitale, qui est la plus complète du marché incontestablement sur la partie immobilière, puisqu'on traite toutes les problématiques patrimoniales en immobilier. Et puis bien évidemment, on commence à ouvrir la capacité à nos clients de venir s'exposer à des sujets qui sont non immobiliers, typiquement par le biais de l'assurance vie, puis du PER qu'on est en train d'intégrer. Et à terme, il est fort probable qu'on vienne positionner des solutions compte titre et PEA pour être une plateforme vraiment globalisée. Et on travaille, on réfléchit, comme certains commencent à le faire, à la tokenisation d'actifs et la capacité de vendre des actifs segmentés. Voilà, vous allez acheter une partie, une portion d'un appartement à Paris sur lequel vous avez cette portion de rendement adossée. Voilà.
Donc, quels sont les défis auxquels sont confrontés MoneyOne aujourd'hui et comment est-ce que vous y faites face ?
Alors, les défis sont multiples. Alors, la première particularité qu'est la nôtre, ce que j'évoquais un petit peu en préambule, c'est qu'on a une double casquette. C'est-à-dire que, je vous le disais, je travaille tant pour la société de gestion que pour le distributeur. Et sur le marché, c'est relativement rare, voire quasiment inexistant, d'avoir soit vous êtes gérant, soit vous êtes distributeur, mais vous êtes rarement les deux. Donc ça, notre premier défi, ça a été de créer de la valeur ajoutée par rapport à cette réalité. Elle est double, la valeur ajoutée. La première, c'est que vous avez une influence sur les produits. Quand je vous parlais de versement programmé à 20 euros, c'est parce qu'on peut avoir une influence sur les statuts juridiques du produit lui-même, ce qu'un distributeur seul ne peut pas avoir, puisque c'est à la main du gérant. La deuxième chose, c'est que le mix de canal digital plus le fait d'avoir les marges et de l'asset manager et du distributeur nous permet de donner du cashback à nos utilisateurs, de rendre une partie de notre marge de manière à optimiser la performance. On est quasiment le seul distributeur à être générateur de performance en plus de la performance du produit. Titre d'exemple, vous achetez 100 euros d'un produit qui fait 5%, vous allez gagner 5 par an. Quand vous passez par MoneyOne, vous allez faire 100 euros et vous allez gagner vos 5 par an issus de la performance du produit. Et puis nous, on va vous rendre 2 ou 3 euros. Donc en gros, vous allez gagner 7 au lieu de 5. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Alors c'est en année 1, c'est sur la commission de souscription, mais c'est un élément qui est extrêmement intéressant pour l'utilisateur puisque à iso périmètre de produit, il va gagner plus d'argent en passant par un distributeur que par un autre. Donc ça, c'est notre premier défi, ça a été d'optimiser cette relation gestion-distribution. Le deuxième défi, il est dans notre volonté extrêmement forte de faire de la pédagogie, de positionner l'épargne comme un bien de consommation. Et c'est un défi qui est extrêmement difficile puisqu'il faut réussir à vulgariser quelque chose qui n'est pas obligatoirement simple auprès d'individus dont le sujet n'est pas obligatoirement passionnel. On évoquait tout à l'heure le fait d'utiliser ou pas, par exemple, un canal web pour aller s'acheter des baskets ou je sais pas quoi. On est dans quelque chose d'épicurien. C'est-à-dire que je viens me positionner et je viens acheter quelque chose dont j'ai spécialement envie. L'épargne, c'est plutôt considéré, même si tout à chacun est conscient du fait qu'il faut qu'il mette de l'argent de côté pour les études de ses enfants, pour sa retraite, pour un objectif X ou Y d'acquisition d'une maison, je ne sais pas quoi, c'est pas complètement glamour. Voilà. Donc il faut venir apporter de l'information simple et compréhensible sans que les gens aient obligatoirement envie de l'avoir. Donc voilà, ça c'est une deuxième difficulté. Et puis la troisième difficulté, un gros challenge sur ce sujet-là, c'est qu'on est extrêmement régulé. Voilà, donc c'est une activité qui est très régulée, l'asset management. Je parlais de bien de consommation comme un autre. Malheureusement, c'est pas un bien de consommation comme un autre. Je ne peux pas vendre un produit d'épargne comme je vends des baskets. C'est comme ça. Donc, il faut réussir à mixer une pédagogie et une simplification d'accès à des contraintes réglementaires qui sont extrêmement fortes et qui sont considérées par certains utilisateurs, en tout cas, comme contraignantes. On pose beaucoup de questions, on demande beaucoup de justificatifs, etc. Alors, c'est pour nous un vrai challenge puisqu'on pense qu'il y a des choses qui sont nettement optimisables d'un point de vue des régulateurs. Notamment, par exemple, c'est un exemple que je prends assez souvent, mais vous pouvez perdre 1000 euros par semaine en jouant au loto en étant sûr de perdre sans qu'on vous pose aucune question. Et si vous voulez investir 20 euros par mois sur de l'immobilier via les systèmes de versement programmé que je vous évoquais, vous êtes obligé de répondre à 50 questions, de donner des justificatifs, etc. etc. Donc il y a quelques anomalies qu'on cherche à corriger. C'est très challenging. Donc ça, c'est un de nos combats et un de nos challenges à moyen terme. Et puis le troisième grand défi, il est basé sur les évolutions technologiques. On est en train de vivre une pure révolution technologique. On a eu la naissance du web qui a complètement, en 20 ans, transformé le paysage. Il y a eu l'arrivée ensuite, dans cet environnement web, du smartphone qui a complètement, lui aussi, fait évoluer le paysage avec les apps, etc., l'instantanéité, le j'ai tout dans ma poche. Et là, on rentre dans une troisième ère qui est la decentralized finance, le défi où j'ai le Web3, j'ai le métaverse, j'ai les NFT, j'ai les tokens, la blockchain, etc. Et donc, c'est des sujets qui sont, s'ils sont bien exploités par un asset manager et un distributeur, peuvent permettre de répondre aux deux problématiques évoquées préalablement, à savoir la démocratisation et l'accès plus simple à l'épargne.
Selon toi, donc tout ce qui est blockchain, tokenisation, etc., quelle place vont-ils prendre dans l'immobilier? Qu'est-ce que ça va changer? Comment est-ce que ça va impacter le secteur?
Alors, ça peut se regarder sous plein de spectres. Le premier, imaginons qu'on se positionne en tant que société de gestion et que vous gérez des produits collectifs. Alors, je vais parler plutôt de gestion plus que d'actifs en direct, hein, parce que c'est plus là où c'est mon core business. Mais quand vous êtes gérant d'actifs immobiliers, que vous avez une SCPI, vous allez acheter, l'intérêt de la SCPI, c'est que vous allez avoir 100 immeubles, 1000 locataires, différents secteurs d'activité, différentes durées des baux, vous êtes ultra diversifié. Et donc, ça permet à l'acquéreur, quand il achète cette SCPI, d'être par définition instantanément ultra diversifié. Il diversifie son risque, il optimise sa capacité d'obtenir son rendement. Donc ça, c'est le bien fondé intrinsèque du produit collectif. Rien n'empêche demain, en tout cas c'est ce qu'on est en train de regarder, que ce même asset manager, on puisse imaginer tokeniser un actif et cet asset manager vient acheter une partie, tout ou partie de ce token pour venir le positionner en diversification dans son produit collectif. Donc ça c'est un premier élément, c'est une nouvelle manière d'opérer l'immobilier, vous achetez exactement la même chose mais de manière différente à travers les produits collectifs. Ça peut vous donner accès à des produits auxquels vous n'aviez pas spécifiquement accès. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la blockchain, elle peut permettre aussi de désintermédier en termes de gestion. C'est-à-dire que, par exemple, on utilise aujourd'hui, quand vous êtes gérant d'actifs, vous utilisez différents acteurs. Quand vous gérez, c'est invisible pour l'utilisateur, mais vous avez de la tenue de registre, des teneurs de compte, des CAC, des ci, des ça. Tout ça, ça a un coût. Et pour l'entreprise, et donc in fine, ça se ressent dans la performance du produit, la blockchain peut permettre de casser certains de ces intermédiaires, et donc d'optimiser les coûts, et donc d'optimiser la performance dans l'intérêt de l'investisseur. Donc ça, côté gestion, c'est des choses qu'on regarde de manière attentive, puisque ça peut avoir énormément de sens, tant côté optimisation de nos process que de côté utilisateur. Quand on est sur une logique de distribution, il y a plusieurs manières de voir les choses, c'est utiliser la blockchain comme un canal de distribution, c'est-à-dire que ma SCPI dont je vous parlais, au lieu de vous la vendre en nominatif traditionnel comme je le fais aujourd'hui, je l'englobe dans un token. Là, je fais très schématique parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je l'englobe dans un token et ce token, je le mets à disposition sur la blockchain et je permets à un individu d'acheter la réalité de cette performance immobilière, mais à travers un format juridique qui n'est pas le même. Et puis, le troisième aspect qui me paraît assez génial et qui me semble avoir un futur important, c'est qu'il y a de plus en plus de wallets, il y a de plus en plus d'utilisateurs, des gens qui se positionnent sur la crypto. On peut être critique sur la crypto. Je suis pas un spécialiste de la crypto. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ou pas faire du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. C'est pas mon métier. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de wallets avec des gens qui en détiennent. Et surtout, il y a quelque chose aujourd'hui qui existe, qui est le stablecoin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sorte de crypto-monnaie éligible et qui peut s'échanger sur la blockchain et qui est connecté ou corrélé à une devise classique, le dollar, l'euro, etc. Encore une fois, le diable est dans le détail, tout n'est pas si simple, mais on va schématiser ça comme ça. Et donc, si vous tokenisez vos produits, ces détenteurs de la wallet, vous leur permettez d'accéder à un produit auquel ils ne pourraient pas accéder par le biais de leur propre crypto. Donc voilà, donc vous accroissez le champ des possibles. Voilà.
D'accord, mais au final, c'est quand même bénéfique, puisque ça va dans la logique de rendre accessible justement.
Alors, alors il y a différents avis sur le marché. Pour moi, c'est incontestablement bénéfique. Et pour moi, la défi et la finance traditionnelle sont en train de se rejoindre et il n'y aura pas, à mon avis, d'alternative. À 10 ans, c'est un pari que je fais, hein. Après, je peux me tromper, mais c'est un pari que je fais. À 10 ans, je pense que ça sera totalement intégré et que la totalité des distributeurs et ou des asset managers auront tout ou partie de leur modèle qui seront positionnés sur ces technologies-là, ouais, bien sûr.
Ok. Alors, pour parler un peu des SCPI, est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères à prendre en compte lors de la sélection d'une SCPI et comment est-ce qu'aujourd'hui les investisseurs ils peuvent évaluer justement la performance et la solidité d'une SCPI?
Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Comme toute logique d'investissement, le maître mot, c'est la diversification. Donc déjà, est-ce que si toi, tu viens me voir et que tu m'expliques ta problématique, je te dirais, il faut que tu fasses 100% de SCPI, la réponse sera non. Déjà, on te dira, il faut faire une allocation un petit peu diversifiée. Ensuite, par contre, il est extrêmement intelligent dans une allocation d'avoir une proportion de SCPI. Et on calcule la réalité du niveau de cette proportion selon la réalité du profil de l'investisseur. Une fois qu'on a dit ça, quand on arrive sur la sélection de ces SCPI, on peut aussi diversifier sur cette poche immobilière, puisque la SCPI, elle peut acheter de l'immobilier tertiaire, elle peut acheter des commerces, elle peut acheter de la logistique, etc., etc. Donc selon l'arrêté des montants qu'on investit, on peut venir se diversifier sur, voilà, on va dire du bureau. Souvent, c'est les actifs centraux qu'on achète de manière à... C'est le socle, on va dire, immobilier de son allocation. C'est un rendement pérenne, etc., etc. Puis ensuite, on vient se diversifier sur les choses un peu plus satellites, la logistique, la santé, etc., etc. Et comment on fait une bonne sélection? Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'avantage énorme de ce produit, c'est sa diversification. Vous achetez un appartement, vous mettez un locataire, le locataire ne vous paye pas, vous passez de 100 à 0 de revenus. Voilà. Vous achetez une SCPI, un locataire ne paye pas, vous allez à peine vous en rendre compte, c'est quelques centimes sur votre rendement qui va disparaître. Donc le bien fondé d'avoir beaucoup d'immeubles et énormément de locataires sur beaucoup de secteurs d'activité, de manière à ce que si un secteur d'activité souffre économiquement, vous n'ayez pas une explosion de la vacance issue de ces économies qui se portent mal, et que vous ayez des durées, des baux 3, 6, 9 qui soient bien diversifiés, ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc ça veut dire quoi? Ça rentre aussi une logique de taille dans le produit. Si vous avez un produit SCPI qui pèse 10 millions et qui a deux actifs, bah, il est mécaniquement moins diversifié qu'un produit qui pèse 4 milliards et qui en a 400. Voilà. Donc ça va être un sujet fondamental. Le rendement facial seul est un mauvais critère de sélection. C'est-à-dire, je vais prendre un produit parce qu'il fait 5,5 au lieu d'en prendre un parce qu'il fait 4,80. Parce que je pense que je vais gagner plus d'argent, ne veut absolument pas dire que dans la durée de détention prévisionnelle, vous allez en réalité gagner plus d'argent, puisque le risque est susceptible d'être beaucoup plus concentré. Donc ça, c'est un élément à regarder, la diversification. Et puis, il y a un deuxième élément qui est assez peu regardé par les utilisateurs et nous, qu'on les invite à regarder, c'est que, c'est un petit peu technique, mais quand on est sur une SCPI, vous avez un prix de souscription et puis vous avez chaque année deux experts indépendants qui viennent regardez tous vos actifs, tous les flux locatifs, et qui viennent dire, selon nous, la réalité du prix de votre produit, c'est X. Donc imaginez que votre produit est à 100, il vous dit, pour moi, votre produit, il vaut 98 ou il vaut 102. La société de gestion, elle a une marge de manœuvre entre le prix de cet expert et le prix auquel elle le commercialise, qui est de 10%. Okay? Donc si l'expert dit ça vaut 100, la société de gestion peut dire, je valorise mon produit à 90 ou à 110. Okay. Par contre, vous n'avez jamais le droit d'être décalé de plus de 10% de la valeur d'expert indépendant. La société de gestion, elle n'a pas la liberté de faire le prix qu'elle veut. Elle est évidemment dépendante de structures indépendantes qui vont venir lui expliquer la réalité des prix. Et souvent, il y a un très faible écart, enfin, il y a une marge de manœuvre qui est relativement courte sur ces 10%. Donc, plus vous êtes au taquet de ces 10%, plus il y a une influence sur le marché, votre prix va automatiquement baisser parce que vous sortez de la borne. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le fait qu'il y ait une proximité assez forte entre cette valeur d'expertise et la réalité de votre prix de souscription. Donc, nous, on fait très attention à ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait toujours un tampon qui fait que si le marché venait à baisser de 5%, on ne soit pas obligé immédiatement de taper nos prix de 5% et donc de faire perdre du capital à nos utilisateurs, étant entendu qu'il y a des cycles immobiliers et que si ça arrive, c'est susceptible de remonter derrière et donc vous n'avez pas eu d'influence sur le capital de votre investisseur. Si vous êtes au ras de la borne, vous avez une influence. Donc voilà, donc les critères, c'est la diversification, actifs, locataires, secteur d'activité, durée des baux et le décalage entre le prix de part et la valeur de réalisation. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes.
Tu parlais justement, pardon, de cycle immobilier et de la situation du marché. On connaît la situation du marché immobilier en ce moment et aujourd'hui. Comment est-ce que cela impacte votre activité, notamment les SCPI ou justement cette question aussi d'épargne?
Alors, là, c'est une question hyper intéressante. On va évoquer la partie immobilière, puis on va évoquer la partie patrimoniale qui peut être un tout petit peu différente. Sur la partie immobilière, il n'y a pas un, mais il y a plusieurs immobiliers. Ça, c'est hyper important. Ça serait dire le marché immobilier monte ou baisse de manière globalisée. Ça serait comme dire les actions montent et ça voudrait dire que les obligations montent aussi. Ça peut être complètement déconnecté. Donc, quand on parle d'immobilier tertiaire, d'immobilier de commerce, d'immobilier résidentiel, qu'on achète en direct, en collectif, etc., etc., bien évidemment, les réactions au marché global de ces marchés spécifiques peuvent être très différentes. Donc ça, c'est un premier élément qui est hyper important. Maintenant, est-ce que oui ou non, il y a une tension plus importante sur le marché immobilier, on va dire là, d'un point de vue global ? Oui, ce serait mentir de dire que non. Et pourquoi ? C'est majoritairement connecté à la réalité de l'évolution des taux. On a tendance à oublier que pendant 10 ans, les taux ont été à zéro. Et quand l'argent est gratuit, c'est souvent au bénéfice de l'immobilier. Donc évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expositions. Et surtout, ça a permis, et là on va basculer sur la logique patrimoniale, ça a permis aux investisseurs de voir qu'ils pouvaient avoir des livrets à zéro et ils pouvaient avoir, avec un risque très limité, 5% de rendement dans une réalité inflationniste qui était quasiment nulle. Donc ça rend le produit extrêmement attractif d'un point de vue patrimonial. Là aujourd'hui, les taux, ils ont explosé. Quand on empruntait il y a 18 mois de ça, nos clients, ils empruntaient en dessous de 1%. Aujourd'hui, pour emprunter en dessous de 4,5 sur de la SCPI, c'est très très dur. Donc évidemment, patrimonialement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de continuer de faire de l'acquisition à crédit, ça a même encore beaucoup de sens, mais ça en a mécaniquement et facialement moins que lorsque les taux étaient extrêmement faibles. Et puis l'octroi de crédit par les banques, c'est beaucoup durci pour ces raisons-là. Donc mécaniquement, tout ça influe. Vous avez moins de volume, etc., etc. Après, il y a quand même des critères économiques qui sont entre guillemets positifs pour l'immobilier. C'est l'indexation des loyers sur l'inflation. Quand vous avez une réalité inflationniste, l'immobilier a toujours été une protection face à l'inflation. Donc j'ai envie de dire, c'est ni tout blanc ni tout noir. Il faut être vigilant. Il y a un marché qui est un peu plus en pause qu'il ne l'était. Les volumétries sont moins importantes, mais elles étaient historiquement élevées. Donc, c'est pas complètement déconnant d'un point de vue du marché. Donc, il n'y a pas de stress pour moi. Il n'y a pas de crise, mais il y a l'obligation d'avoir un minimum de vigilance et donc, de facto, de venir regarder la réalité des critères qu'on évoquait préalablement pour venir absorber un éventuel mouvement de marché.
Ok. Alors, on va un peu plus revenir sur toi, si tu veux bien. Aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton rôle au sein de Money One et aussi de La Française, justement ? Donc, ton quotidien, comment est-ce que tu gères tes équipes et les valeurs que tu transmets, notamment ?
Ok. Alors, Money One, donc, je l'ai monté en intrapreneuriat. Donc, j'ai envie de dire, quand je l'ai monté, c'était avec une réalité passionnelle, quasiment. Voilà. Donc, j'étais matin, midi, soir, week-end... au taquet, à bloc, j'adorais ça, c'était une nouvelle aventure. J'ai eu la chance de pouvoir monter une équipe pluridisciplinaire, hiérarchique, ça c'était assez génial, c'est-à-dire que je suis allé récupérer des gens dans différents départements, des juristes, du compliance, du marketing, de l'IT, etc., sur lesquels j'avais un rôle en gros de chef de projet, d'entrepreneur, mais je n'avais pas de réalité hiérarchique. On a monté quelque chose. Leur hiérarchie était le patron du département X, Y ou Z. Et donc, on a monté quelque chose de manière en mode start-up, comme on dit, mode agile, avec des gens qui ont été plein de bonne volonté. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été un super moment. On a beaucoup bossé, mais c'était quand même assez génial. Donc voilà, et donc là ça a été mon rôle numéro 1. Le rôle numéro 2, ça a été, une fois on a réussi à intégrer une toute ou partie des gens qui étaient sur la gestion de ce projet dans nos équipes, et puis on est venu grossir, il fallait des forces commerciales, il fallait de plus en plus de marketing digital, etc., etc. Il y a énormément d'acquisitions qui se fait par le canal digital, donc on est venu optimiser nos compétences. Donc là voilà, l'idée ça a été de recruter et de convaincre le groupe qu'il y avait un bien fondé à vers ça. C'était assez nouveau, hein, quand même, de créer quelque chose qui était un peu disruptif dans l'environnement de l'asset management et donc qui n'était pas culturellement complètement intégré au niveau des management des asset managers. Donc voilà, donc ça, on s'est développé, ça a grossi, ça a fonctionné. Il faut toujours un peu de chance dans la vie, je dis tout le temps ça aux équipes. Il s'avère qu'on se lance dans un environnement de marché que je vous évoquais tout à l'heure, qui est topissime, hein. Les taux sont à zéro, le produit a le vent en poupe. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait du bon boulot et en même temps, on a eu le vent dans le dos, donc tout s'est bien corrélé. Donc aujourd'hui, Money One, c'est 1,75 milliard d'euros d'encours, c'est 30 000 clients, voilà, c'est des équipes d'une trentaine de TP, plus l'appui qu'on a sur les collaborateurs du groupe, parce qu'on mutualise certaines activités, l'IT notamment. Donc c'est plutôt un succès et une très bonne tendance. Et puis, puisque je vous le disais, j'ai cette double casquette, et pourquoi ça influe aujourd'hui de plus en plus sur la réalité de la française, c'est que le bien fondé des compétences qu'on a intégrées sur cette activité sont devenues très intelligentes pour le compte du reste du groupe, donc du marketing digital, mais aussi des outils et des services digitaux pour le compte de nos intermédiaires distributeurs. Donc si nous, on a une problématique en tant que distributeur direct, nos confrères qui ont des clients directs ont les mêmes problématiques. Et donc la capacité qu'on avait de développer des outils qui venaient répondre à certaines de ces problématiques, il n'y avait aucune raison qu'on ne les mette pas à disposition de nos partenaires distributeurs, de manière à donner un avantage compétitif à l'asset manager, produit plus service. Si vous avez le même produit, vous allez probablement aller chercher ce produit là où vous avez un service complémentaire. Voilà. Donc ça, c'était complètement la logique. Et aujourd'hui, je garde la présidence de MoneyOne. Mais par contre, j'ai nommé il y a 2-3 ans de ça un directeur général, donc qui a vocation à prendre la charge opérationnelle de cette activité. Moi, je m'en détache un petit peu d'un point de vue charge opérationnelle. Je la supervise, voilà, on va plutôt dire ça. Et en fait, je viens répliquer, mais à un modèle beaucoup plus large, en distribution et en gestion, le bien fondé d'une plateforme techno, de stratégie de marketing digital, d'outils et de services, aux différentes compétences d'asset management du groupe et aux différents canaux de distribution du groupe.
D'accord. Et alors, comme vous êtes une solution digitale, est-ce que vous proposez vos services, j'imagine, dans toute la France ? Est-ce que vous allez même au-delà en Europe ?
Excellente question. Est-ce qu'on a l'ambition d'aller hors des frontières ? Évidemment, oui. La complexité qui est la nôtre, c'est que, vous l'avez compris, on a un biais très, très immobilier. Je vous parlais d'1,750 milliard d'euros d'encours tout à l'heure. Il y en a 1,5 milliard en immobilier. Donc, ouais. Voilà. Donc c'est clairement un biais immobilier et avec un gros biais SCPI à l'intérieur de cet immobilier. Et la SCPI est un produit franco-français. Donc en gros, contrairement à un bien de consommation classique, je vends des baskets, j'ai un fronting, je le traduis en italien, en espagnol et je vends le même produit. C'est totalement impossible sur cette typologie de produit. Donc on a l'ambition de venir développer cette activité digitale en direct to consumer, au-delà des frontières françaises, mais on se doit, et c'est là l'avantage d'être un asset manager, on va adapter les produits à la réalité de ces marchés, de manière à avoir non seulement un fronting et une interface web, app, mais avec un produit qui évidemment a du sens pour les investisseurs locaux, fiscalement, et surtout qu'il soit juridiquement éligible.
D'accord. Alors, on va un peu se tourner du coup vers l'avenir, comme c'est intitulé notre podcast, et pour avoir un petit peu ta vision du futur et notamment tes objectifs et tes ambitions. Déjà, sur un plan personnel, aujourd'hui, comment est-ce que tu te vois à l'avenir et quels sont tes objectifs à court, moyen ou long terme ?
Ah, c'est une vaste question. Encore une fois, moi, ma conviction, tu l'auras compris, elle est basée sur le fait que l'asset management traditionnel, la défi, l'apport de la technologie, l'apport des néos usages va complètement révolutionner la manière dont va s'opérer la finance demain, tant côté gestion que côté distribution et accessibilité pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une conviction extrêmement forte. Et donc ce sur quoi moi je vais me concentrer, c'est, et on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est comment on peut exploiter ces néo-technologies et ces néo-usages pour venir optimiser notre performance, pour venir créer des produits qui ne pouvaient pas exister faute de la capacité technique et qui aujourd'hui peuvent être mis en place, comment on va pouvoir les rendre plus facilement accessibles, comment on va pouvoir plus facilement donner de l'information, etc., etc. Donc pour moi, l'avenir absolu, il est basé là-dessus. Il est basé sur le fait que la techno va venir permettre d'adapter des offres à des demandes de plus en plus précises. Autre sujet, la logique d'hyper-personnalisation. On est assez convaincu que demain, les nouvelles générations, même les plus anciennes, mais les nouvelles générations, déjà l'usage n'est plus du tout le même. Ils naissent avec un smartphone, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc ça, c'est une réalité d'usage. Il y a une logique, on va dire, ESG environnementale, qui est dans notre ADN d'entreprise depuis toujours, mais là, qui est complètement absorbé par tout le monde a conscience qu'il y a un petit sujet climatique quand même. Voilà, et donc il y a des gens qui sont de plus en plus convaincus et qui veulent bien investir puisqu'ils comprennent le bien fondé de l'investissement, mais ils veulent le faire en connaissance de cause. Il ne faut pas que ça soit opaque. Donc ça va optimiser la capacité de transparence et surtout ça va optimiser la capacité de personnaliser son portefeuille. Ça, la technologie va l'amener. Typiquement, vous seriez en droit de me dire je ne veux pas investir dans tel type d'industrie, que vous ayez tort ou raison sur le fait que ça soit nuisible ou pas, l'environnement n'est pas le sujet, vous décidez que vous n'investirez pas dans tel type d'industrie. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être certain que ça ne va pas être le cas. Demain, ce sera possible. Voilà. Par le biais de cette hyper-personnalisation et de l'utilisation de la technologie. Donc, voilà. Je vous parlais de sujets réglementaires, de contrainte d'onboarding client, donc pour que vous puissiez investir, il faut que j'ai pas mal d'informations pour vous. L'intelligence artificielle va venir nous accompagner pour faciliter cette réalité-là. Vous allez parler à un système et il va venir le traduire dans la réalité de ce que vous êtes en capacité de faire et on viendra vous proposer des solutions qui sont exclusivement en lien avec la réalité de ce que vous voulez et de votre profil de risque. Donc, les usages vont complètement être modifiés et la facilité d'accessibilité va être complètement modifiée. Donc, on doit évidemment travailler à tout ça. Donc, je veux dire, c'est un mix de tous. Et donc, ces nouveaux usages et les nouveaux besoins des utilisateurs, à nous, de l'autre côté asset manager, de venir adapter l'offre qui est en adéquation avec cette réalité-là. Donc, il y a un biais énorme de la technologie dans toutes les industries. Ça continuera d'être vrai. Et je pense que dans l'environnement financier et bancaire, c'est la même chose. Et puis, tu me parlais d'une ambition suprême. Nous, on est hyper contents de ce qu'on fait. On est filiale d'une banque, Crédit Mutuel CIC, qui est un très gros réseau, entreprise à mission, donc qui a plusieurs vertus en tant que banque, c'est qu'elle n'a pas d'actionnaire. Donc ça, c'est un premier élément, c'est une vraie indépendance. Et aller entreprise à mission, c'est-à-dire que quand vous êtes entreprise à mission, c'est-à-dire que vous, non seulement vous avez des convictions, mais vous rentrez dans vos statuts la quasi-obligation de mettre en œuvre la réalité de vos convictions. Donc ça va au-delà de la conviction puisque vous êtes contrôlé sur le fait que vous les suivez bien. Donc, et ça c'est complètement en lien avec l'ADN de ce qu'on est nous en tant que société de gestion sur ces critères ESG, environnementaux, etc. etc. Et donc je pense que dans le futur on aura la capacité de venir agréger des logiques de SOC technologie, banque, gestion de manière de plus en plus importante et donc d'élargir le spectre de la capacité de ce qu'on est capable de fournir à nos clients à des clients beaucoup plus larges, y inclus ceux de la banque.
Ma dernière question, on portera sur l'avenir toujours. Comment est-ce que tu projettes MoneyOne sur les prochaines années? Ce que tu lui souhaites notamment et à la française également?
Alors, je lui souhaite tout le meilleur, ça c'est certain. Je lui souhaite de grandir. Je lui souhaite de continuer de recruter des équipes sympathiques, pluridisciplinaires. Voilà, ça c'est certain. Et donc, mécaniquement, pour ça, faut évidemment s'adapter. Jamais il faut s'arrêter, hein, jamais. Donc, évidemment, il faudra en permanence s'adapter. Et ce que je lui souhaite surtout, c'est effectivement de venir adapter en permanence la réalité de ses offres à ses demandes. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, de venir passer les frontières, d'abord en Europe et pourquoi pas le reste du monde dans quelques années. Voilà.
Écoute, on va finir sur cette belle note. Écoutez, merci d'avoir écouté Avenir. Merci à toi, Christophe, d'être venu encore une fois, merci de nous avoir partagé toute ton expertise et ton histoire. Puis on se retrouve pour un prochain épisode d'Avenir très prochainement. Merci.
Merci.
C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.